Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Behar dans le chelek chavbe de l'écouté sikhot. Nema ba parachatenu, il dit dans notre paracha, chez Israël, amocher atzmo l'Israël, acher l'Ève. Si un juif qui se vend à un autre juif en tant qu'esclave, azay bevoshnat ha-yovel, alors quand l'année du yovel arrive, l'année du jubilé, veyatza mimachu banavimu, il sortira de toi, ça repartira, lui et ses enfants avec lui. Bepirocho, dans son explication, était caché ta tevot ou banavimo, rachi copie les mots ou banavimo, ou Pierre l'explique. Amar Rabbi Shimon a dit la chose suivante. Himonimka, c'est lui il a été vendu. Banavimachan, qui a vendu ses enfants. Parce qu'on a dit que ses enfants partent. Comment est-ce qu'ils ont atterri là-bas? La Mikan, chez Rabbo Chayav et Mzalat. De là, on apprend que son maître est Chayav et obligé de nourrir les enfants. Donc, quand il achète, ou quand c'est Mocher Atzmo, quand cette personne se vend à quelqu'un, cette personne-là, l'acheteur, a aussi la responsabilité de nourrir les enfants de cet esclave-là, de Evet. Il faut comprendre, la question uniquement, qui a vendu les enfants? Okay, dans ce cas-là, Maosh aussi, Rashi Vekdim, Imunimka. Pourquoi est-ce que Rashi commence son explication avec les mots Imunimka, si lui a été vendu? C'est pas ça qu'il veut expliquer. La question, c'est qui a vendu les enfants? Même si effectivement les mots de Rabbi Shimon dans le texte original sont là, sont ces mots-là, imunimka, qu'on a expliqué plusieurs fois. Rashi ne copie pas les mots de Chazal exactement dans les mots dont ils se servent. Mitamze. Et donc, ou mechané, il change, ou pshita mashmit ou mekatsa. Donc, des fois, il enlève des mots, des fois, il raccourcit. La rov, en général, la chaîne razal, des mots de chazal. Be'etem, le piro shakato, ve'a pshoto shemikra, pour correspondre au pshat du pshoto shemikra. Donc, Rashi n'est pas là pour copier les mots tels quels et les rajouter. Il adapte le concept de chazal à passo, l'explication du passo. Des fois, il va juste rajouter un mot. Il va prendre le mot du passo, qui va rajouter un mot d'explication, ou autre chose, il va modifier pour que ce soit le pshat. Donc, dolat mia. Donc la question est encore plus importante. Pour revenir, pardon, ce que Rashi nous dit, c'est dans la Gemara Kiddushin, qui nous dit que Rabbi Shimon nous dit que si lui il a été vendu, pourquoi est-ce que qui a vendu les enfants? Très bien, ça c'est la mémoire de Rabbi Shimon. Rashi, son explication, il veut expliquer quoi? Pourquoi les enfants, d'où est-ce que les enfants ils sortent? Pourquoi est-ce que les enfants sortent? C'est lui qui était esclave. Pourquoi on parle des enfants ici? Donc il aurait pu le dire, Banavi Machan, qui a vendu les enfants? L'explication, mais quand que le Rav est chayav de nourrir les enfants. Pourquoi est-ce qu'il rajoute Imunimka? Maintenant, la question encore plus forte. Dans la halakha d'un esclave juif, un serviteur juif, qui sont dans la paracha de Mishpatim, Neymar s'est marqué la chose suivante. S'il est marié, quand il va sortir, sa femme sort avec lui. Bien sûr, là-bas, c'est la même question. Comment est-ce que la femme atterrit là-bas? Donc, Pirash expliqué là-bas, Veyatsa Eshto Emo, sa femme va sortir avec lui. Qui l'a fait rentrer pour qu'elle sorte? Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Le passage peut nous enseigner, quelqu'un qui acquiert un Eved Ivri, il est chayav de nourrir sa femme. OK? Donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? Rashi n'a pas dit pas les mots. Si lui il a été vendu, comment, qui a vendu sa femme? Non. Et l'akshal tout de suite, il commence avec la question qui est la femme. Pourquoi est-ce que la femme doit sortir? Qui l'a fait rentrer? Okay, dans ce cas-là, elle l'a ma parachuté. Pourquoi est-ce que dans notre paracha, Shina, il a Rashi a changé. Akdama, il a mis cette introduction. Imunimka, si lui il a été vendu, qui a vendu les enfants? Ça, c'est là donc une question qu'on a sur ça. Dans la Péléodieta, dans la question est encore plus étonnante. Le Koroshe le Mamar Rabbi Shimon Shevi Rashi Parashatenu, ou Bigmara. La source, parce que la mémoire que Rashi ramène, Rabbi Shimon, c'est dans la Gemara. Shamouva, de là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans cette Gemara? Chez Rabbi Shimon, Drasha a fait un pasuk de Mishpatim. Rabbi Shimon a aussi une Drasha sur le pasuk dans Parashat Mishpatim. C'est marqué, sa femme va partir avec lui, va sortir avec lui. Et Boto Signon, et là-bas, Rabbi Shimon se sert des mêmes mots. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit, Imhu Nimka, c'est lui, il a été vendu, Ishtomim Nimka, qui a vendu sa femme. Mais Kahan, chez Rabbi Chaya, de là on apprend que le Rav, le maître, est Chaya de s'occuper de sa femme, etc. Afalpika, malgré tout, même si les mots de Rabbi Shimon sont les mêmes, et qui commence avec la même question, c'est lui, il a été vendu. L'eau était crachée là-bas, Sukhsham, là-bas, Rashi ne ramène pas cette partie-là de l'enseignement de Rabbi Shimon, Imunimka. Et la vie, la chambre, la mechita, il ramène le mot la mechita, et il la fait rentrer pour qu'elle sorte. Ilo, par contre, chez nous, là-bas, chez nous, Rashi ramène les mots de Rabbi Shimon. Alors que là-bas, il n'a pas ramené Rabbi Shimon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a changé alors qu'on a exactement la même explication? Les terakens encore plus que ça. Gam, Hachevira, quand Rashi ramène la question. Banav, les enfants qui ont été vendus. Eh non, mais on ne comprend pas. Torah de Konim Malata. Dans Torah de Konim, ici, sur notre passouk, on va le chatrila limoun makatouf, Rabo Banav. On a ce limoun-là, du passouk, Rabo Banav. Son maître est chayav, le maître est chayav de nourrir les enfants. Et on ne pose même pas la question. Qui l'a vendu lui? Certainement pas. Et même pas qui a vendu les enfants. Tout de suite, Torah Kanum dit, de là on voit que le maître est chayav de s'occuper des enfants. Ken, Dada, Yael Rashi, donc Rashi. Chez Dako, Piroshok et son derrière dans le Pirouche. Chez Lolak dit Metashel à la Passouk. De manière générale, Rashi ne pose pas la question qui va l'interpeller dans le Passouk. Ou la Hamekanatar, c'est ensuite répondre à la question. Elle a l'air top, le chatrilak tapirosh apasuk, Rashi normalement ne ramène que l'explication. Donc Rashi aurait dû dire, qui encore une fois, de manière générale, Rashi n'amène pas la question et vient répondre. Donc il aurait dû dire tout de suite l'explication. L'iftach, mais le pirosh commence avec son explication. Mais quand, de là, on voit que, shirabo, chayeb banav. Que le maître est responsable de s'occuper de la nourriture des enfants. L'olak n'a même pas posé la question, Banam qui a vendu les enfants? Donc pour l'instant là, pourquoi est-ce que Rashi parle du père? Qui a vendu le père? Est-ce que si le père était vendu, qui a vendu les enfants? Pourquoi parler de ça? Pourquoi est-ce qu'il a changé dans Mishpatim? Il ne ramène pas Amar Rabbi Shimon, ni le fait qu'il parle du père, alors que chez nous il le fait. Et pourquoi Bechlal commencer avec une question et répondre alors que Rashi en général ne fait pas ça? On aurait pu expliquer la différence entre deux explications de Rashi. Qu'en fait, ça dépend de l'expression dans la Torah se sert dans les deux psukim. Pasuk de Danemar, dans notre pasuk, c'est marqué Uvanavimo, lui et ses enfants avec lui. Le Fichach, et donc, Rashi mentionne dans ses mots aussi Imhu Nimkar, c'est lui, il a été vendu, Banavimachan, qui a vendu les enfants. Hachem, qui a un parachat Mishpatim par contre, dans la parachat Mishpatim Nemarak, Veyatsa, c'est marqué uniquement, et sa femme sortira avec lui. Lohu, il n'y a pas de mot hu, lui sortira et lui et sa femme. Ken, Katav Rashi, donc Rashi écrit, Vechimichnisavetolo, qui l'a fait rentrer elle, pour qu'elle doive sortir. Donc on pourrait dire que c'est ça la raison. Rashi suit le format du Passouk. Le Passouk chez nous, il parle de hu banav, donc Rashi parle de lui et des enfants, alors que dans Mishpatim, on parle uniquement de sa femme, donc Rashi parle uniquement de la femme. Non, mais ce n'est pas une explication suffisante. Charé, Rashi a écrit son commentaire sur la Torah de manière la plus précise et la plus concise. Rashi n'écrit pas de manière poétique, de manière avec un style particulier, ou bien il se suit les mots pour que ça corresponde aux mots du passage dans le sens juste pour que ce soit le même format. C'est bon. Et donc, étant donné que Shatevot Imunimka enam Pirush Shatevot Hu, étant donné que ces mots-là, Imunimka, si lui a été vendu, ne sont pas une explication du mot Hu, Shnema Bakatov, qui est marqué dans le passage. Elarak Hagdama le Shela Banam Imachan, c'est uniquement une introduction à la question qui a vendu les enfants. Et encore une fois, ce que Rashi veut dire, c'est ce que Rabbi veut dire, c'est que Rashi n'explique pas le mot Hu. Si il voulait expliquer le mot Hu, pourquoi est-ce que la Torah mentionne le mot Hu? Pourquoi, qu'est-ce qui c'est ce rouge, qu'est-ce qu'elle a l'explication? Dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi Rashi ramène des mots. Et tant qu'il ne vient pas expliquer ça, il vient uniquement expliquer l'idée des enfants, Banav et Machan. Et le rouge, c'est uniquement une introduction au fait que les enfants ont été vendus. Dans ce cas-là, on a un problème. D'une chose à l'autre. D'une chose אם השאלה דורשת בנמי מחן, סי לה קיסטון בנמי מחן כי אבונדו לזנפון, דורשת ההקדמה אימון נמכר, אונה בזמן דאטרונדויר סט קיסטון וקלימו אימון נמכר, היה לרש"י לכתוב הקדם זו. השכלה, רש"י רואה דיו אימץ את מ"ם אינטרודקשיון, גם בפירושו פרשת משפטים, דנסון קמנטר לפרשת משפטים. כמו פרדו לפעם, סיפור אין רזון אין אותו, לפה דיטרמין לפורקוע. וסיטה אימפורטנט במונסיני כסילוי לה תבונו, כי אבונדו ספם סזנפון, השכלה אדום משפטים לרש"י רדיו רדנו למשוז, גם בפירושו פרשת משפטים. אם השאלה אינה דורשת הקדמה זו, אסי לה קיסטיון a du sens sans dire c'est lui a été vendu, qui a vendu les enfants ou la femme. On peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin d'avoir cette introduction, c'est lui a été vendu. Mais c'est pour ça que Rashi ne l'a pas amené cette introduction là dans le Mishpatim. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi a besoin de le ramener dans le Parasha? Alors que c'est exactement le même format, si on peut dire, de question. Donc on est obligé de dire chez Yesh, nous, il peut être que la différence n'est pas juste dans les mots, c'est dans le concept, dans le contenu des psukim. Ou basé, yachev, et ça va nous répondre. Gamash pashat mishpatim, le fait que dans pashat mishpatim, Rashi eino mevit mamar Rabbi Shimon, Rashi ne ramène pas le mamar de Rabbi Shimon de la Gemara. Et là, mevin la mechilta, il ramène de la mechilta. Il est parashat eino, alors que dans notre parashat, matim dafka mamar Rabbi Shimon, dafka, alors qu'on a un Torah de Konim, Rashi le ramène la Gemara de Rabbi Shimon. Et donc, si on arrive à comprendre le Rashi, on comprendra pourquoi est-ce que là-bas, Rashi se sert d'une source et chez nous d'une autre source. Aussi le fait que dans notre parasha, Rashi ramène le nom de l'auteur de cette même Rabbi Shimon. Que dans parashat Mishpatim, Rashi ne ramène pas l'auteur de ce qui est dit, qui est dans la Mechita, qui est Rav Yitzhak. Donc, si, encore une fois, on n'a pas la réponse, le rabbi met en place les éléments. Et si on arrive à comprendre, on pourra comprendre tous les détails. Ensuite, on a une autre question dans les deux commentaires de Rashi. Rashat Mishpatim, Katav Rashi. Dans Mishpatim, Rashi écrit la chose suivante. Magida Katov, Chayav, Bebzanot, Ishto, Bana. Que le maître est obligé de s'occuper de nourrir les enfants, sa femme et ses enfants. Dans le pasuk là-bas, dans le Mishpatim, on ne parle pas de ça, des enfants. Uniquement, Vayatsa Ishto Imo. Sa femme sortira avec lui. Les Mefarshim nous ont dit, Shibosafat Rashi Banav, quand Rashi rajoute le mot Banav, En Kamato Lomash Alavar Neman Pasuk Vayatsa Ishto Imo. Rashi ne veut pas dire qu'on apprend ça de ce pasuk là. De là, on apprend que le Rav, il est chayav de mezonot, des enfants. Charé, kamo anadin makatuv rak pishto, parce qu'effectivement, le pasuk là-bas ne parle que de sa femme. En in mod mikan adin mezonot banav. Donc, on ne peut pas apprendre de là-bas que le maître est chayav de nourrir les enfants. Puis, on voit avec Gemara, basé sur ce qu'elle m'a expliqué dans la Gemara, elle était amusée encore plus que ça. Al pis vara ishlomar shedavka ishto. La logique nous dirait que c'est davka la femme qu'il doit nourrir et pas les enfants. Pourquoi? Parce que pour la femme, chez Bouchalakhzoraptachim, c'est honteux d'aller commencer à mendier. Donc le maître est obligé de la nourrir. Par contre, les enfants ne sont pas, on n'a pas la même gêne. Et donc, on devrait peut-être dire que les enfants sont pas, le maître n'est pas obligé de nourrir les enfants. Mais étant donné que Rashi nous ramène le fait que le maître est obligé de nourrir sa femme, donc il nous ramène à l'alakha aussi. Que le maître est non seulement chayav de nourrir la femme, mais aussi de nourrir les enfants. Ça marche à la pasuk parashatenu, et c'est reposé sur le din qui est marqué dans notre parasha. Pas que c'est un limoud dans la parasha mishpatim, le limoud, la halakha, on l'apprend de notre parasha à nous. Mais étant donné que c'est une vérité, si on peut dire que c'est vrai, et qu'on parle de la femme, Rashi a complété le scénario, complété les informations. D'ailleurs, la mechilta nous dit la chose suivante, la mechilta c'est dans parasha mishpatim. Chayav bezantea, que le maître est obligé de la nourrir, au banav, et de nourrir les enfants. Je n'ai pas, comme c'est marqué, veyatsa, memach, il va sortir de lui, ou banav, imo, lui, les enfants. Là, c'est ce que les mefarshim expliquent sur la parasha de Mishpatim. Pourquoi est-ce que Rashi, tout d'un coup, ramène les enfants, alors qu'ils ne sont pas mentionnés dans le pasuk? Adal, pirouge, tsachiyun gadol. Mais ça, on a vraiment besoin de réfléchir à ce pirouge. Ah ouais, parce que. Vazot, chez le fils, loi, Rashi, parasha, tout l'asim, de chagav. À part ça, Rashi, dans notre parasha, il n'aurait pas dû juste mentionner, oh, pardon, il aurait dû dire, mentionner dans notre parasha, nous, Gam et Ishto, sa femme aussi. Parce que si on va dire que ça va dans le sens inverse, donc dans Mishpatim, on mentionne les enfants, donc derrière Agav, Rashi mentionne sa femme, alors dans ce cas-là, Rashi aurait dû faire la même chose chez nous. Le passage nous parle de la femme, derrière Agav, on aurait dû mentionner les enfants. Effectivement, Torah Kohanim marche comme ça. De la même manière que le maître est obligé de le nourrir, le maître est obligé de nourrir aussi sa femme et ses enfants. Mais à part ça, une autre zot. Si dans la Mechilta, il fallait qu'on nous dise qu'on apprend ça d'un autre passouk. Donc à plus forte raison, Rashi. Rashi, il explique le Pshuto Shemika. Même pour un enfant de 5 ans. Le diakan, Rashi aurait dû informer ça. C'est-à-dire que le Ben Chamesh qui apprend le passouk dans Parashat Mishpatim, il voit aucune référence aux enfants. Ah, tu me dis qu'il y a un passouk dans Parashat Béa, cet enfant n'a pas encore appris la Parashat Béa. Donc va lui dire. Il y a un autre passouk. Des fois, Rashi fait ça. Des fois, Rashi nous dit, d'ailleurs, non, sachez qu'il y a un autre passouk plus tard, qu'un enfant n'a pas encore appris, et je te mentionne ça, comme ça tu sais. Mais là, il n'y a pas. Donc Rashi explique les mots dans Parashat Mishpatim, et tout d'un coup, Rashi introduit les enfants. Que les enfants sont censés être nourris par le maître. D'où tu vois ça? Et le Farshim qui dit, oui, en fait, il apprend de Béa. Pourquoi est-ce que Rashi ne l'a pas mentionné? Alors que Torah Tkanim, clairement, le mentionne, que Torah Tkanim, ce n'est pas fait pour les enfants ou un enfant qui n'a jamais étudié le Chumash, on est obligé de l'informer qu'il y a un passouk plus tard. Et malgré tout, Torah Tkanim, qui est fait pour quelqu'un qui a déjà étudié et qui a fini le Chumash, Torah Tkanim, disons, sa Midrash, donc c'est l'époque de la Mishnah, il est déjà au moins, à la Mishnah, c'est déjà Ben Chamesh, Ben Esser de Mishnah, il a déjà étudié, donc après tout le Chumash. Malgré tout, on doit le mentionner. Donc certainement que Pshuto Shemekha, il faut le mentionner. Alors, donc on est obligé de dire, chez les filles Rashi, que d'après Rashi, l'imunadech pshat, c'est-à-dire dans le pshat, on voit ça dans les mots du pasuk. Achen, efshar limon b'zonat banav b'zonat ishto. Effectivement, on peut apprendre que le maître est obligé de nourrir les enfants du pasuk qui part de la fin. Ok, on voit, dans ce cas-là, on a un problème. Étant donné que ça émerge de ce pasuk-là, et c'est pour ça que Rashi le ramène, pas un midrash qui se repose sur la parashat Béa, mais ou un din qui se repose sur la parashat Béa, mais on voit ça dans les mots même, qu'un amouvan, dans ce cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un autre pasuk? Si après, d'après Rashi, on voit ça dans les mots dans la parashat de Mishpatim, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un pasuk dans la parashat Béa qui nous dit ça? Alors qu'en fait, c'était déjà inclus dans la parashat Béa. Galatmé a la question encore plus forte. Attention dans les mots. Qu'est-ce qu'il dit? Mais quand c'est de là, d'ici, qu'on apprend que le maître est obligé de nourrir les enfants. Dès lors que Parashat Mishpatim, on n'apprend pas ça de Parashat Mishpatim, chez Nakat Sham Lachom Magen Akatouv. Là-bas, il n'a pas, il dit Mikan, de là-bas, on apprend. Magen Akatouv, le Pasuk nous dit. Haïno, chez Rashi, Madge, c'est-à-dire que Rashi met l'accent sur le fait que quoi? Chez Limoud Mikan, que le Limoud, que le Rav est obligé de nourrir les enfants, vient de notre Pasuk à nous, de Parashat Béa. L'homme est Makam Achen, pas de quelque part d'autre. Nimsa, chez Shnei Pirushé Rashi, l'homme est Sterile. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, les deux commentaires de Rashi se contredisent l'un l'autre. Soit dans Parashat Mishpatim, d'une manière ou d'une autre, on déduit ça du texte. Et c'est pour ça que Rashi le ramène. Encore une fois, Rashi ne ramène pas les Midrashim. C'est Pshuto Shemikra. Donc Rashi nous dit, du texte, on voit qu'il y a ce din-là. Alors que Rashi nous dit plus tard dans Mishpatim, dans Parashat Be'ah, non, on apprend ça Mikan de là. Alors d'où est-ce qu'on apprend ça? De Parashat Mishpatim ou on apprend de Parashat Be'ah? Pour comprendre ça, il faut qu'on examine un autre point dans le Rashi, notre paracha. Dans ce mot, Rashi écrit la chose suivante. Imunimka, si lui il a été vendu, c'est un passif, la shonifa, c'est un passif. Siem ou siem, il finit. Banav mi machran. Et il continue. Et à la fin, il dit bah, ses enfants, mi machran, c'est les enfants qui les a vendus. C'est-à-dire qui l'a fait. Ce n'est pas un passif, c'est un actif. Apparemment, il y a le Rashi aurait dû mentionner la même chose dans les deux autres endroits. Et Mounimkar, si lui, il a été vendu au passif, les enfants, qui les a, qui les, qui ont, comment est-ce qu'ils ont été vendus? Par qui est-ce qu'ils ont été vendus? Ou bien, si lui, il se vend, qui vend les enfants? Mais là, ça mélange. Un est passif et un est actif. Maintenant, la question est encore plus forte. Dans la Gemara, effectivement, les mots sont exactement comme ça. Himudimkar, si lui, il a été vendu au passif, banav, les enfants, comment est-ce qu'ils ont été vendus? Qui les a vendus? Au passif aussi. Rashi a changé les mots de la Gemara. Et il écrit, les enfants, mimachan, qui les vend? Bon, qui les a vendus, mais encore une fois, pas comment est-ce qu'ils ont été vendus, par qui est-ce qu'ils ont été vendus, mais qui les a vendus. Donc, un, pour lui, l'esclave, c'est un passif, il a été vendu, ou il est vendu, et les enfants, ils sont vendus, pas qu'ils ont été vendus, pas que, on ne parle pas d'eux, ça part au passif, c'est l'actif, la personne qui fait la vente. La biourbe, c'est l'explication la suivante. D'après la halakha, le père ne peut pas vendre son fils petit mineur en tant qu'esclave. Comment je l'amène ma passo, qu'on apprend ça du passo, b'chim kori shadbito. Si quelqu'un, si un homme vend sa fille, et de là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? Aish mocher beno, et bito veno mocher beno, que le père peut vendre sa fille mais pas son fils. Et c'est pour ça que la Gemara pose la question là-bas. Les enfants, comment est-ce qu'ils ont pu être vendus? Comment est-ce que les enfants peuvent être vendus? Qui va les vendre? Le père n'a pas le droit de vendre les garçons. Donc on parle de banav. Donc ça, c'est effectivement au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, et c'est pour ça que la Gemara dit minim karim, au niveau de la halakha, il y a un problème, il y a une certaine impossibilité que les enfants, les garçons, banav, ces garçons, soient vendus. Mais si on ne connaît pas la halakha, donc on ne regarde pas la halakha. On regarde juste le passouk, ce que la Torah nous dit. Mais il n'a pas passouk. Quand on a un passouk, on a un passouk qui nous dit que le père peut vendre sa fille en tant que serviteur. Servante. On ne peut pas faire le diouk. Ah, c'est marqué dans le passouk, bito, si quelqu'un vend sa fille. Ah ouais, c'est effectivement uniquement la fille, pas le fils. Pourquoi? La fille, c'est parachazou, parce que cette paracha-là, ça parle d'une ivria. On parle d'une jeune fille qui a été vendue. C'est pour ça qu'on parle d'une fille. Parce que c'est le contexte. Mais la vérité, peut-être qu'on pourrait dire dans le passage qu'il n'y a rien qui m'indique que le fils ne peut pas être vendu. Parce qu'il n'y a aucune raison. Juste, encore une fois, on regarde juste les psukim. Le chalek ben bito. L'ibno, de dire qu'il y a une différence entre la fille et le fils. Et l'omar est de dire que le père pourrait vendre sa fille et pas son fils. Quelle soit la logique derrière? Il n'y a aucune raison de dire ça. Et donc, quand on étudie le passouk, der hapshat, et comme le rabbi l'a dit souvent, d'après Rachid, der hapshat n'est pas obligé de correspondre à la halakha. Il peut y avoir le pshat, il peut y avoir la halakha, c'est deux choses séparées. Et donc, quand on étudie les psukim, il n'y a pas d'indication, de raison de dire. Effectivement, les enfants, les garçons ne pourraient pas être vendus. Donc, non, la Gemara qui connaît la halakha, qui est dans le monde de la halakha, effectivement, la Gemara pose la question, comment est-ce que les enfants ont été vendus, les garçons ont été vendus? Mais dans le pshat, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pour cette raison, c'est pour ça que Rashi a changé le mot de la Gemara. Le katab, au lieu d'écrire minim karim, comment est-ce qu'ils ont été vendus encore une fois au passif? Mimachan, ce que Rashi dit, qui les vend? Parce que derech le père peut le vendre. La question, c'est juste savoir qui l'a vendu. C'est-à-dire que comment ça s'est passé que tout d'un coup, il y a un garçon qui émerge. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, on peut comprendre aussi la question à savoir pourquoi est-ce que Rachid, c'est une des questions qu'on avait, pourquoi est-ce que Rachid dit, c'est lui, il a été vendu, qui vend les enfants. Rashi a un problème. Lora kanemar banavimo, pas juste parce que le passage nous dit banavimo, ou banavimo. Et la gamma tevat hu, le mot hu. Et c'est pour ça, je sais chéter gam tevazu bedemoramatre. C'est pour ça que Rashi ramène ce mot-là hu dans les dibouramatre. Il a un problème avec ce mot-là. Et chor, apparemment, tevat hu bakatuvze mutarat. Ce mot hu dans le passage, on n'en a pas besoin. Il est extra. Alors, il marque un meyatsa mimar, c'est marqué dans le passage. Qui va sortir? Ok, qui va sortir hu? Donc on aurait dû continuer, le passouk a dû continuer. Veyatza qu'il va sortir. Ou banavimo, c'est les garçons avec lui, ses enfants avec lui. Lamanemangamu, pourquoi est-ce que le passouk dit hu veyatza hu banavimo? C'est quoi ce mot hu qui vient de dire? Kenayama comme le frash. Donc on aurait pu expliquer. Sheba parashatenu, dans notre parasha. Sheba, ni donu ki yamokhachicha, on parle de quoi? De quelqu'un qui est devenu pauvre. C'est-à-dire le pasouk veut dire que quoi? Que lui et ses enfants avec lui. Ou c'est une allusion à deux situations différentes. Yav on aurait pu dire il y a la possibilité que c'est-à-dire on pourrait penser que c'est un cas où la personne s'est vendue en tant qu'esclave, uniquement lui. Et il pourrait y avoir un autre cas, qu'il s'est vendu avec les enfants. Il pourrait y avoir un cas où il est devenu tellement pauvre, à point où il s'est vendu en même temps que ses enfants, avec ses enfants. Les enfants, ça inclurait banav ou les garçons et les filles. C'est pour ça que le passage nous dirait chez arrive le yovel, il va sortir, lui et ses enfants avec lui, parce qu'il lui s'est vendu avec les enfants. C'est ce qu'on aurait pu dire si on regarde le passage avec ce mot-là, hu, que le mot Yatsa hu ou banav, il pourrait y avoir le cas aussi Yatsa quand lui il est sorti, c'est-à-dire lui s'est vendu tout seul, et il pourrait y avoir un cas où il s'est vendu. Lui et ses enfants. On aurait pu penser que c'est le cas. C'est ça que Rashi veut éliminer, cette explication-là, qu'il aurait pu se vendre avec ses enfants. Et Munimkar, si lui s'est vendu, Mishlamahu, mais là, je comprends lui, c'est marqué clairement dans le Passouk, Nimkar, il s'est vendu à toi. Ava, mais les enfants, Mimachan qui les a vendus, ou comment ils sont vendus? D'où est-ce que c'est marqué plus tôt que le père les a vendus? Et étant donné qu'ils ont été vendus, le passage a besoin de nous dire qu'ils vont sortir aussi. C'est marqué nulle part dans la paracha que les enfants ont été vendus par leur père. Par contre, dans Mishpatim, c'est marqué que quoi? Que sa femme va sortir avec lui. L'autre va où là-bas, c'est pas marqué où. Rashi n'a pas besoin d'expliquer pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mot hu. Donc, s'il n'y a pas le mot hu, il n'y a pas de Havamina de dire à 30 secondes, il peut y avoir deux cas. Le cas où il s'est vendu lui et le cas où il s'est vendu lui et sa femme. Non, ce n'est pas marqué le mot hu. Donc, c'est uniquement la personne qui est sortie, qui s'est vendue, ou pardon, dans le cas de Mishpatim, c'est qu'il a été vendu parce qu'il a volé, et le Rav est obligé de s'occuper de sa femme. Alors que dans notre paracha à nous, dans Béhar, il y a une espèce de répétition. Veyatsa Meimach, lui, va sortir. Hu, Banav, et lui et ses enfants. Donc, il pourrait y avoir un autre cas, le cas où il était vendu avec les enfants. Et donc, là-bas, étant donné que dans Mishpatim, il n'y a pas le mot hu, il n'y a pas besoin de dire, de se poser la question, Mounimkar, si lui a été vendu, pourquoi sa femme est impliquée? Alors que chez nous, oui. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer. Mais quand chez Rabbi Chaya, de là, on apprend dans le passage à nous que le maître est obligé de nourrir les enfants. Haïnou, chez Beba, chez Neymar, quand c'est marqué que lui et les enfants vont en sortir, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir, qu'ils vont être libérés, parce qu'avant, ils n'étaient pas libérés, avant, les enfants étaient esclaves, maintenant, ils sont libérés. Non, les dîn mezonot, c'est uniquement l'obligation de les nourrir. Chez Rabbi Chaya, le maître est obligé de les nourrir. Et maintenant que le père va sortir, le maître n'a plus de responsabilité par rapport aux enfants. Étant, en ce qui concerne, étant donné que il y a une certaine responsabilité que le maître a de nourrir les enfants, maintenant que le père sort, les enfants aussi. Étant donné qu'en ce qui concerne l'obligation de nourrir les enfants, chez nous, ici, dans le parashat, il y a un chidouche par rapport au Hevel lui-même. Ce n'est pas juste marquer les enfants. Le maître est obligé de nourrir les enfants. Le gamhu, le maître est obligé de nourrir l'esclave. Que le maître est obligé de nourrir l'esclave. Donc, ce n'est pas marqué, il y a deux cas. Il y a le cas où il est sorti, c'est-à-dire que quoi? Le cas où, encore une fois, le pasouk ne parle uniquement de la sortie en liberté. Il pourrait y avoir le cas où il s'est vendu lui, ou bien le cas où il s'est vendu lui et ses enfants. Maintenant, ils sortent. Non, ce que Rashi dit, non, le pasouk parle de quoi? Le pasouk parle uniquement du chiyuv de mezonot. Ah, pourquoi c'est marqué hu banav? Rashi nous explique. Le maître a une obligation de le nourrir lui. Et on va voir tout de suite pourquoi est-ce que c'est un chidouche que la Torah nous dit qu'il faut le nourrir. Bien sûr qu'il va le nourrir. Non, il y a une raison de le mentionner. Et il doit nourrir aussi les enfants. La différence entre les deux psukim, dans parashat Mishpatim et notre parashat. Iskero Rashi kvar parashat Mishpatim. Rashi l'a déjà mentionné dans Mishpatim. שפרשת עבד עברי אמורה שם, עוסקת בבאו שמחו בדין וגנבתו. וכל מה פרדם פרשת משפטים, פרדם עבד עברי, ידעו סוכת דעבד עברי. יען כאיתי וונדו פרל בית דין פסקילה וולה כי פפר רמבורסה, יענו אותי כלכן כאילו בנית אמר פוב כי סובון למן. דוקלה באדם משפטים הוא פרל כבר עבד שמחו בית דין וגנבתו. עבד כאיתי וונדו פרל בית דין פסקילה וולה. השם כפרשת עברי פרשת היינו הוא פרקון דונות חבד דונה פרשת דוד עברי דונות פרשת ענו עוסקת במוכר עצמו פתן דרך קורם פרל כלכן כי סובון למן פסקו il est doré qu'il a pas il a la pression de la parnassa ختيف et d'où est-ce qu'on sait ça c'est marqué dans paracha le khia mukha khikhani imach ve nimkar lakha si il va tomber tellement bas il va devenir tellement pauvre et il va se vendre mais ze mistaf khilu ki kare begad khiyuv adon atet mazon ken shto banaf shel avet ela étant qu'on parle de deux sortes de avadim il y a une différence en tout cas on aurait pu penser qu'il y a une différence entre l'obligation de nourrir la famille dans les deux cas אשר אדם נמכר על ידי בית דין, כל כלכן הייתי וונדו פרל לבית דין, שלא ברצונו סתיו כי לפבולי. מסתבר לומר פודיר ביסור, שבית דין אחראים לסיפור קצר כבן לבני ביתו, לבית דין אין רספונסיביטי צו כפצע פמי, לפר עשור כסע פמי סוואנורי. פירוש, שחיוב התורה לאדם מזונות אשתו הוא, סתיו כלא בליגסון על התורה, כלא מת חד ונורי ירסע פמי, סתיו ספם, לא בגלל התועלת שיש לאדון, סיפה פס כלא מת אין אינטרה, על ידי שאשתו של עבד עומדת לצדו משמשת אזור כנגד פסקלמתו, שטיפלה השפה מהכותל לוי. סינא השפה מהכותל לוי ילד, דונק יפמיות חוויה. לעשות עבורות כל המלאכות, יפו הפרטו לתחוויה. ושפם פורה סוקיפד את חוות סומרי, דונק ישחה פלו טרנקיל, פסקילה השפם, או ליתות לתחוו שישה עושה לבעלה, כאו אינפם פה פור סומרי, ודונק לוי לפלו דיספוניבל פורטחוויה. לא, זהו דין אכל בדין יין, דין סור לבית דין. שהם מחויבים, ils ont l'obligation לספק את צורכי האישה, de s'occuper des besoins de la femme, במקום בעלה, à la place du mari, שהוא עושה את זאת, עד אחר, normalement c'est le mari qui s'occupe de sa famille, de sa femme et des enfants, maintenant que le mari va être vendu par le bedin doit s'assurer que la famille a de quoi vivre. ועל כן, מתנים בדין לכתחילה עם האדון, דוק לא בדין, לפי התנאי, לסטור, למטר, דוסט אסקלב, לה, שמוחייב לספק את מזונות אשתו, אילו בג'ט סוקיפד לה פמי יוסי. וכאוס, כלכן ורונד, ואשתה, סט אסקלב, לה, פור לקל כזנית את חווי, זה הפקאג', אין ממתו, אילה לאובליגציון דנוריר לה פמי. ואלה, הוא אמר פשטות, דוק הוא קומפרו, שאם בסדין מספק את מזונות אשתו, סי, לבסדין, s'occupe des besoins de la femme, de la nourriture de la femme. Ah, chez Bechat, elle a sa gmelacha, alors qu'en fait, elle pourrait être où elle pourrait travailler. Ou le faire, n'est-ce pas, à gagner sa vie. Quand chacun le cas, Homer a plus forte raison. Chez Bedin, Mouchouyab, les docs, les sipouk, mais le banav, actanim. À plus forte raison, le Bedin est obligé de s'assurer que les enfants, les petits-enfants, ont de quoi se nourrir. Chez Nam, Yucholim, la Samlacha, eux, ils ne peuvent pas travailler, ils sont petits. Fichach, aussi, Frachim, mais on a tchou bana, c'est pour ça que Rachir amène les enfants aussi. Ça, c'est juste pour nous dire que le Bedin, étant qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas le choix, on apprend logiquement, si on peut dire, ce n'est pas un din dans le passeau, mais on comprend que le bedin a une responsabilité. Hachem, que mon mocher a ce matin rove dans notre paracha, quelqu'un qui se vend lui-même, Hachem, Hamida, Tubirtsano, c'est lui qui va faire la démarche de se vendre. Hachem, notre le bedin, et ça, ce n'est pas quelque chose qui dépend du bedin, le bedin n'a rien à voir avec ça. Lui-même a plein d'argent, il ne s'en sort pas, il a besoin d'aide, etc. Il a trouvé cette solution de se vendre. On aurait pu dire, et le Bedin Kolila l'étare, le Bedin n'a rien à voir dans cette histoire-là. Ou le Khaïb est à donner la tête de Mazonat Ishtobanav et d'obliger le maître à nourrir toute la famille. Et comme chez l'Adon, on pourrait dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le Adon, le maître, tout d'un coup prend la responsabilité de s'occuper de toute une famille. Il me l'autre, comme le Khatrila, moi, que s'il veut, il peut, s'il y a une condition qui a été faite, le Khatrila. Shalam Kol Shachot Elav. Ils n'ont rien à voir avec lui. Il est obligé de les nourrir. Le type lui-même est venu voir, il dit, voilà, j'ai besoin, je ne m'en sors pas, j'ai besoin. Ok, très bien. Mais je vais prendre la responsabilité de toute la famille, là. Mais là, ils nous ont dit, donc dans ce cas-là, on aurait pu dire, si quelqu'un se vend lui-même, c'est sa responsabilité à lui de s'occuper de ses enfants. Ou bien, ils sont comme tous les pauvres. Mais pourquoi est-ce que le Adon a la responsabilité de s'occuper de la famille? C'est pour ça que le verset nous dit « Ubanav imo » les enfants sont avec lui aussi. Étant donné que là la Torah nous dit, nous spécifie, le maître est obligé de s'occuper de la nourriture des enfants. C'est un chidouche d'une Torah, ça c'est une nouvelle halakha. Chafilo, ben Mochéatson, même si quelqu'un se vend lui-même de manière volontaire, la banav, le maître est obligé de nourrir les enfants. Basé sur ça, on peut comprendre. Pourquoi est-ce que la Torah met l'accent sur le fait que c'est lui et ses enfants avec lui? Parce que, encore une fois, quand on parle de quelqu'un qui se vend lui-même, même le fait que l'événement est nourri, c'est déjà un chidouche. On aurait pu dire que l'Adon n'est pas obligé de même de nourrir l'esclave. Parce que pourquoi est-ce que le Adon devrait payer l'esclave plus que ce qu'ils ont le contrat ou l'accord qui a été fait depuis le départ? Il va le payer pour son travail. Bien sûr, on pourrait dire que le Adon il peut se satisfaire du minimum. Un peu d'eau et un peu de pain. Pour qu'il puisse avoir la force de travailler. Mais tout, pas plus que ça. Alors peut-être qu'on peut dire le ménage dans un endroit, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de nous dire que encore une fois, dans Pshuto Shemikra, pourquoi est-ce que le maître est censé nourrir toute la famille? C'est pour ça que la Torah nous dit, non, non, attention. Oh, banavimo, le maître est obligé de le nourrir. Mais nourriture normale, pas un petit peu de pain et un peu d'eau. Mais ça, c'est pour ça que la Torah a besoin de le spécifier, parce qu'on aurait pu dire, après tout, ce n'est pas son obligation, ce n'est pas son affaire. Puis, maintenant, basé sur tout ça, on peut comprendre la raison pour laquelle, chez le Pirocha ou dans son explication dans notre paracha, Haché n'a pas inclus la femme. On avait dit que si dans Mishpatim, il inclut la femme, c'est pour ça qu'il inclut les enfants, parce qu'elle aurait dû faire la même chose ici. Quand le passage nous parle des enfants, il aurait dû inclure la femme. Comme il a rajouté les enfants dans Pachat Mishpatim. Parce que dans le Passouk, encore une fois, Pshuto Shemikra, et quand on voit dans Pshuto Shemikra, il n'y a pas de raison d'inclure sa femme. Elle peut se débrouiller toute seule, elle peut aller travailler. Et si c'était juste la logique, on aurait pu dire la logique m'amène dans plusieurs directions. Quand il s'agit de quelqu'un qui va se vendre lui-même, donc de là on apprend que quoi? Que le maître est obligé effectivement de nourrir les enfants. Et on ne peut pas dire nécessairement ça inclut la femme. Pourquoi? Il est un moment, on peut dire, le fait que le maître est obligé de nourrir les enfants, même si à la base on aurait pu dire qu'il n'y a aucune raison qu'il soit obligé à le faire, parce que la Torah a pitié pour les petits, qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Par contre, sa femme, elle peut aller travailler. Le maître n'est pas obligé de la nourrir. On pourrait dire d'une autre manière. Que même Rashi est d'accord, que le maître est obligé de nourrir sa femme. Elle fait le mochem à même si c'est le vent. Pourquoi? Parce que au bout du compte, le maître est content et gagne du fait que le serviteur a sa femme avec lui. Elle s'occupe de ses besoins, etc. Au Memeila, et donc, Minastam, Adam Chaim, le Khatrila, donc, Memeila, le maître s'engage, Mitraïev s'engage, le Khatrila, à nourrir sa femme. Maintenant, ça peut être dans les deux directions. Et la Torah ne spécifie pas. Et c'est pour ça que Rashi ne ramène pas dans son explication la femme. Parce que donc, Pshutoshemekra, je ne sais pas si la femme est inclue ou pas. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement déduire du fait que les petits enfants, les petits, il faut s'en occuper. Parce que des petits, le maître n'a rien à gagner. Ou bien on peut dire que donc, il n'y a aucune raison de s'engager à les nourrir. Donc, encore une fois, ça dépend de ma logique. Et dans la logique, je pourrais partir d'un côté ou de l'autre. Et donc, Rachid nous dit, les enfants, la Torah a besoin de le mentionner, les petits, je comprends. Est-ce que ça inclut la femme ou pas? Je ne sais pas, et j'ai aucune preuve de la Torah, et donc Rashi ne le ramène pas. Odev Shalom, on peut dire aussi, Shadava, cette chose-là, c'est ce point-là, il m'a de Macho Bedin, on l'apprend du fait que c'est quelqu'un qui a été vendu par le Bedin, c'est que Shem, Shebidin Don, Zé, et Mashgichim Bekar, Shebichat Al-Faran, de la même manière que on ne fait pas attention au fait qu'elle pourrait se nourrir elle-même. Ou Bedin, Machrim, Talon, Zalot, Lazunotay, malgré tout, le Bedin, force le maître à la nourrir. Alderze va mocher atzmo. Donc, on aurait pu dire qu'effectivement, la même année que Marou Bédin, quand c'est quelqu'un qui était vendu par le Bédin, le maître obligé de le nourrir. On aurait pu dire Alderze mocher atzmo, la même chose, si quelqu'un se vend lui-même. Adon, le maître, chayav la tête, la mezonot. Le maître obligé de lui donner à elle aussi à manger. Mais ça, à toi la chèche l'omina, parce qu'il va gagner de ça. Beno yachol iftor atzmo betana, il ne peut pas s'excuser en disant Aïcha de Farnes atzmo levana, qu'elle se débrouille toute seule, elle est adulte, elle peut gagner sa vie. En tout cas, d'un côté ou de l'autre, la Sfara me dit oui, non, des mots du passo que je ne sais pas, donc Rachid ne le ramène pas. Ah, maintenant, on a le problème suivant. Donc, on a répondu aux questions dans le Chumash, dans le Rachid. La question maintenant devient hein, pourquoi mentionner Rabbi Shimon? Un enfant intelligent, aiguisé, fin, peut poser la question, sauf ça, au bout du compte. Pourquoi est-ce que le maître est obligé de nourrir les enfants? Alors, il n'a rien à voir avec eux. Il n'a rien à gagner d'eux. Est-ce qu'il est responsable du fait que le père a décidé de se vendre en tant qu'esclave? Tout d'un coup, il est obligé maintenant de, il est obligé de s'obliger de nourrir les enfants. Ils ont le même halakha que tous les pauvres. La communauté a une responsabilité de s'occuper des pauvres. Et pourquoi est-ce que la personne qui va prendre cette personne comme serviteur et tout d'un coup devient obligée de s'occuper de toute la famille? Pour répondre à cette question, Rashi ramène le nom de l'auteur de cette mémoire, Rabbi Shimon. Chez le Shitato Adavar Mouvan, quand on regarde la Shita de Rabbi Shimon, on va comprendre la réponse à cette question qui dit que la personne est obligée de nourrir la famille. Masechet Baba Batra, dans la Gemara Baba Batra. Omer Rashi, Rashi nous dit la Rashbi nous dit la chaussure. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit la chaussure. Toute personne qui ne va pas laisser d'enfant pour l'hériter, Hachem le remplit de Avera. C'est ce que la Gemara. On ne parle pas du fait qu'il n'a pas eu d'enfant, donc il n'a pas accompli la mitzvah de Provo. On ne parle pas de ça. Il y a un point dans l'héritage, d'être Yoresh, que l'on a. Quand quelqu'un a un enfant pour l'hériter, Hachem, ça cause à Hachem l'opposé d'une avéra. C'est quoi Simcha, la joie? Ou même elle est donc automatiquement. Quand une personne n'aurait pas laissé d'enfant pour l'hériter, il y a cette idée d'avéra. Cloma, ça veut dire. D'après l'opinion de Rashbi, ce qui est important dans ce cas-là, dans les garçons, c'est quoi? C'est ben le yorsho, d'avoir un enfant qui va l'hériter, kam tachataviv, un enfant qui va remplacer le père. Ce qui veut dire que le père et le fils ne font qu'une seule continuité. Ou le maïl est mis encore plus que ça, mais c'est une seule existence. Et ça va nous expliquer pourquoi est-ce que le maître est obligé de nourrir les enfants. Parce que les enfants appartiennent au père, si on peut dire, appartiennent dans le sens où ils ne font qu'un avec le père. Et donc, la même manière que le père est obligé de nourrir le, pardon, que le maître est obligé de nourrir le père, qui est le serviteur, donc il est obligé de nourrir aussi la partie du père qui s'exprime ou qui est dans les enfants. Parce que, encore une fois, le père et les enfants ne font qu'un. Maintenant, on comprend aussi la suite du pasouk. Et puis, Rosh Rashi, l'explication de Rashi. Qu'est-ce qui est marqué? Yatsa, ou Banavimo, Vela Chosat Avotav Yeshu. Il retournera à l'héritage de ses parents. Il retourne à sa terre. Et c'est marqué, Achosat Avotav. Ou Banav, Hem, lui et ses enfants ne font qu'une existence. On a dit qu'une seule entité. Donc, la même chose aussi par rapport à lui et ses parents. Ou Meila, et donc, Yeshu, la Chosat Avotav. Il retourne à la partie, l'héritage, la nachala de ses parents. Et par ça va aussi adoucir, ça va encore plus geshmak. Ce que Rashi nous explique dans Pshuto Shemikra, qu'est-ce que Rashi nous dit? El kvod avotav, l'honneur de ses parents. Que shem shasur l'avdil et tev banav, la même manière qu'on ne peut pas séparer le Eved de ses enfants. Car la manière on ne peut pas le séparer de ses parents. Firach, et donc, la chouzat avotav, kvod avotav Yeshu, il retourne à l'honneur, à la gloire de ses parents. Mais il y a des choses extraordinaires qu'on trouve, auxquelles il y a une allusion dans Rashi. Il y a la machro l'adam l'eved. Ce concept d'avoir un être humain qui peut être vendu comme esclave, c'est une allusion au concept de galout. Omer HaKatuv, le passage de la chose suivante. Hashehen banav, que le père et les enfants, c'est-à-dire Hen Avinu Shebashamayim, c'est aussi une référence à notre père au ciel, Hashem, Ve'em Bnei Israël, le peuple juif, Hanikraim, qui sont appelés, Banim Lama, comme on appelait les enfants d'Hashem. Alchol et Galout, on a été vendus en esclaves, ça veut dire quoi? On est parti en Galout. Maman Rashbi, comme Rabbi Shimon Echa nous dit, Chavivin Israël Ifna Kadosh Baruch Hu, le peuple juif est tellement cher à Hashem, chez Kol Makom, chez Galout, Shekhinah, même là où ils ont été exilés, la Shekhinah est avec eux. Et le Rabbi nous dit que, en italique, c'est l'idée de Rashbi, que Rashbi, encore une fois, on l'avait dit, pour lui, les enfants et le père ne font qu'un. Al-Kach, Mevi Rashit, Mamaro, Shel Rabbi Shimon. Sur ça, Rashi ramène le Mamar de Rabbi Shimon. Chez Bot, Amun Chidush Gadol, dans lequel il y a Chidush encore plus profond. Enzorak, Shel Kol Makom, Shel Galus, Chal Shkinam. Ce n'est pas juste que là où on a été parti, la Shkina était aussi avec nous. Elle a vraiment au contraire. Si lui il a été vendu, qui a vendu les enfants? C'est-à-dire, Hachem peut soutenir, peut survivre, être vendu en exil, être en galoute. Hachem il peut tout faire. Et donc Hachem peut se mettre dans la galoute. Et malgré tout, ne pas être impacté par la galoute. Aval banav, mimachan, mais qui les enfants? Comment est-ce qu'ils peuvent être vendus? Comment est-ce qu'on peut vendre les enfants? Bnei Israël begalout. Imesh la galout, shlital yudi. Si la galout peut avoir un certain contrôle sur un juif, dans ce cas-là, ça ne va pas laisser le fait qu'il ait une partie d'Hachem, ça pourra pas être révélé, exprimé. On m'intéresse Rashbi, Rashi nous explique la chose suivante. Ma shebanav netonim begalout, le fait que les enfants sont aussi dans la galout. C'est uniquement au niveau parnassa. C'est-à-dire les besoins physiques et matériaux. C'est eux, c'est la partie de notre être qui est soumis au contrôle de la galoute, mais qui maintenant sont contrôlés par l'ange de chaque pays. Et l'on nishmato, ça n'a pas été vendu en galoute. Comme l'expression qu'on connaît des rabbins précédents, uniquement nos corps sont galoutes. Mais notre neshama, n'a pas été envoyé en galoute, elle n'est pas mise ou soumise au contrôle des nations. Mais c'est-à-dire que l'existence du korban, ou rak uniquement le côté physique du Beit HaMikdash. Etzim, le bois, les pierres. Là, effectivement, un non-juif a eu un certain degré de contrôle. Il a le mitad Beit HaMikdash, mais en fait, le vrai Beit HaMikdash, c'est-à-dire le Beit HaMikdash ruchani, le Beit HaMikdash spirituel. La même chose qu'on a le Beit HaMikdash à l'intérieur de nous. Beit HaMikdash à l'intérieur de chaque juif. Un non-juif n'a aucun contrôle sur ça. Il n'y a pas de churban sur notre Beit HaMikdash à l'intérieur. Et là, Shalou, la dame le marbulibo, mais une personne pourrait nous dire, ok, le dégât, les maisonnottes à la compagnie, mais effectivement, en ce qui concerne les maisonnottes, au moins ça, sur qui a goût, c'est-à-dire nos besoins physiques, notre réalité physique, il y a juste les galouches, l'état lui dit, effectivement, bon, c'est vrai que c'est limité, mais la galoute, elle nous contrôle. L'état qui fait au l'état de chez nous dit, c'est-à-dire que maintenant, on est obligé, ne serait-ce qu'à un niveau physique, pas spirituel au niveau des mitzvot, et tout ce qui concerne le reste, on est obligé de faire attention d'écouter les non-juifs. Alors, comme Rabbi Shimon vient, Rabbi Shimon nous dit, mais quand chez Rabbo, il a dit non, non, non. D'où ils viennent? D'où est-ce que les mezonot viennent? Rabbo. C'est-à-dire que quand effectivement on a besoin de passer par les voies naturelles de la Parnassa, c'est uniquement d'air, ça passe uniquement par Saramdina, par l'ange responsable de chaque pays. Mais ce malach-là, ces forces naturelles, aucun pouvoir de décision, on donne ou on donne pas. Ou est là que Gazam il est, c'est uniquement comme une hache, si on peut dire, dans la main du bûcheron. Il n'y a pas de choix. Donc, effectivement, ça va passer par là. Mais ce n'est pas le malach qui décide oui ou non. C'est la maison encore plus que ça. Que je me Hachem est obligé de nous donner à nous tous nos besoins matériels. Omeila donc, même pendant la période de Galut, le peuple juif reçoit Bane Chayim Zanivéché. On reçoit Bane, c'est des enfants. Chayim, la vie, la santé. Zanivéché, la parnassa, en abondance. Le Tov, Anirel, Vaniglé, de manière bonne, visible et révélée.